Thomas Hardy, le maire de Casterbridge. Chapitre 31. La réponse de la marchande de fromenté au magistrat avait bien vite couru la ville, où 24 heures plus tard, nul habitant n'ignorait plus la folie d'Henchard à la foire de Weydon, tant d'années auparavant. Le caractère dramatique de l'affaire faisait oublier tout ce que le coupable avait tenté depuis pour effacer sa faute. Si l'incident avait été connu de tout temps, on serait arrivé peu à peu à le considérer avec indulgence, et à y voir la folle mais presque unique impulsion d'un jeune homme, avec qui le bourgeois rassis et mûri d'aujourd'hui n'avait, malgré son opiniâtreté persistante, presque plus un seul point commun. Mais l'histoire étant restée enfouie et comme morte depuis ce temps-là, l'intervalle des années passait inaperçu, et le sombre souvenir de la jeunesse d'Henchard venait l'accabler comme un crime récent. Malgré sa futilité, l'incident du tribunal marqua le tournant de la fortune et le commencement de la déchéance du marchand de blé. À ce jour, à cette minute précise, il franchit la crête de la prospérité et de l'honneur pour descendre bien vite sur le versant opposé. Il sombra dans l'estime publique, avec une rapidité singulière. Il avait reçu socialement une rude secousse qui précipitait sa chute, à l'heure où des transactions imprudentes venaient ébranler sa situation commerciale et la vélocité de sa dégringolade s'en trouvait accrue d'heure en heure. Il regardait maintenant les pavés plutôt que les façades des maisons, les pieds et les jambières des hommes plutôt que leurs yeux, et n'avait plus le regard étincelant qui les contraignait à baisser les paupières. Les événements se conjuraient pour achever sa ruine. L'année avait été mauvaise pour d'autres que pour lui, et la faillite d'un gros débiteur auquel il avait généreusement fait crédit vint définitivement saper sa fortune chancelante. Il finit même, dans cette situation désespérée, par manquer à la stricte règle de l'identité entre échantillons et marchandises, qui fait l'âme du commerce des grains. À vrai dire, c'est surtout un de ses employés qui était à blâmer en l'espèce. Ce digne homme, avec un manque total de jugement, avait préparé l'échantillon d'une énorme masse de blé de deuxième qualité qu'Henchard avait en magasin, en y triant en grand nombre les grains piqués, niellés ou brouillis. Honnêtement présentée, la marchandise aurait été acceptée sans protestation, mais en un tel moment, cette fraude commerciale vint porter le dernier coup à la réputation d'Henchard. Les circonstances de sa déconfiture furent banales. En passant un jour devant les armes royales, Elizabeth Jane y vit un mouvement de foule inhabituel, en dehors des jours de marché. Un curieux lui apprit, avec une certaine surprise de son ignorance, qu'il y avait réunion des commissaires pour statuer sur la faillite de M. Henchard. Elle sentit ses yeux se remplir de larmes et voulut, en apprenant que son père se trouvait dans l'hôtel, entrer pour le rejoindre, mais on la dissuada de le faire. La pièce où étaient réunis débiteurs et créanciers était placée en façade de l'hôtel. En regardant dans la rue, à travers le store en toile métallique, Henchard aperçut Elizabeth Jane. La vérification de son bilan terminée, les créanciers se retiraient. La vue de la jeune fille le plongea dans une rêverie profonde, mais il se secoua tout à coup et tourna le dos à la fenêtre en demandant aux créanciers qu'il dominait de la tête un instant encore de patience. Sa mine n'était plus la même qu'au jour de sa prospérité. Ses cheveux et ses favoris étaient toujours aussi noirs, mais un voile de cendre avait terni l'éclat de son visage. « Messieurs, déclara-t-il, en dehors de l'actif inscrit sur mon bilan dont nous avons parlé, voici encore quelques objets. Ils vous appartiennent au même titre que tout ce que je possède, et je ne veux pas vous en frustrer, croyez-le bien. » Sur ces mots, il tira de sa poche sa montre d'or et la posa sur la table, puis sa bourse, sac de toile jaune que portaient fermiers et négociants, dont il dénoua le cordon et vida le contenu à côté de la montre. Il reprit pourtant un instant la montre pour en détacher une chaîne en cheveux, cadeau de Lucetta, étressée de ses mains. « Maintenant, vous avez tout ce que je possède au monde, reprit-il, et je souhaiterais pour vous que ce fût davantage. » D'un seul geste, créanciers et fermiers regardèrent l'argent et la montre, puis détournèrent les yeux vers la rue, tandis que le fermier James Everdeen prenait la parole. « Non, non, Henchard, » fit-il chaleureusement, « nous ne voulons pas de cela. C'est bien de votre part, mais il faut garder ces objets-là. Qu'en dites-vous, voisin? Sommes-nous d'accord? Oh, sûrement, nous n'en voulons pas, approuva Grower, un autre créancier. Qu'il les garde, bien entendu, murmura à l'arrière-plan une troisième voix, celle d'un jeune homme silencieux et réservé, nommé Boldwood, et l'assemblée tout entière approuva ce refus. « Eh bien, fit le premier commissaire en s'adressant à Henchard, pour désespérer que soit le cas, je dois avouer n'avoir jamais rencontré débiteurs qui se conduisent aussi loyalement que vous. J'ai montré que le bilan était dressé aussi honnêtement que possible. Nous n'avons rencontré aucune difficulté. Il n'y a eu ni subterfuge ni dissimulation. On saisit bien l'imprudence des opérations qui ont abouti à cette malheureuse affaire, mais, pour autant que je puis en juger, vous avez fait tout votre possible pour ne léser personne. » Plus ému de ces paroles qu'il ne voulait le paraître, Henchard se retourna vers la fenêtre. Un murmure général d'approbation souligna les paroles du commissaire et l'assemblée se dispersa. En se retrouvant seul, Henchard regarda la montre qu'on venait de lui rendre. « Je n'ai pas le droit de la garder, » se dit-il. « Pourquoi diable ne l'ont-ils pas prise? Je ne veux pas de ce qui ne m'appartient pas. » Un brusque souvenir le poussa chez l'horloger d'en face, à qui il vendit sur le champ la montre. Prenant la somme offerte par le commerçant, il alla trouver l'un de ses plus modestes créanciers, un cultivateur de Durnover dont il savait la situation compromise, et lui laissa l'argent. Lorsque l'on eut inventorié tous les biens d'Henchard et commencé la vente aux enchères, il y eut en sa faveur une véritable réaction de sympathie dans la ville, qui depuis quelque temps le condamnait sans restriction. La carrière d'Henchard était tout entière soumise, maintenant, à l'appréciation de ses voisins, qui voyait avec quel succès il avait su, en partant de rien, user de l'énergie qui était son unique don. Il ne possédait rien, en effet, que son couteau à foin et son crochet à botteler en arrivant à Casterbridge comme simple ouvrier. Et cette considération lui valait aujourd'hui l'admiration de ses concitoyens et leur regret de sa chute. Malgré tous ses efforts, Elisabeth ne pouvait jamais rencontrer son beau-père. Elle croyait encore en lui, quand personne n'y croyait plus, et elle aurait voulu lui montrer qu'elle oubliait sa dureté et l'aider dans ses épreuves. Elle lui écrivit, il ne répondit pas. Elle courut à la maison, la grande maison, avec sa façade de briques sombres vitrifiées çà et là, et ses lourds châssis de fenêtres, où elle avait vécu des jours si heureux. Mais Henchard ne s'y trouvait plus. L'ancien maire avait quitté la résidence de son beau temps pour habiter la chaumière de Jop près du moulin du prieur, dans les tristes parages qui avaient vu sa promenade douloureuse, la nuit où il avait appris qu'Elisabeth n'était pas sa fille. C'est là qu'elle alla le chercher. La jeune fille s'étonnait que son père eût choisi un tel endroit pour s'y retirer, mais elle supposait que la nécessité ne lui laissait pas le choix de sa résidence. Des arbres assez vieux pour avoir été plantés par les moines s'élevaient encore aux alentours, et la vanne du vieux moulin formait une cascade qui avait pendant des siècles fait entendre son terrifiant vacarme. La chaumière était faite de vieilles pierres du prieuré, depuis longtemps écroulées, et l'on distinguait encore parmi les moellons des morceaux d'ogives, des montants de fenêtres sculptées, des fragments de moulures. C'est dans cette chaumière qu'Henchard avait loué deux pièces, Jop, qu'il avait employé, injurié, cajolé et congédié tour à tour, en restait le propriétaire, mais là aussi, l'ancien maire restait invisible. « Même pour sa fille !» suppliait Elisabeth. « Il ne veut voir personne pour l'instant, c'est son ordre » s'entendait-elle répondre. Elle passa un jour, un peu plus tard, devant les magasins de blé et les greniers à foin qui avaient été le centre de l'activité d'Henchard. Elle savait qu'il n'y était plus le maître, mais c'est avec stupeur qu'elle regarda la porte familière. Une généreuse couche de peinture couleur de plomb avait été passée sur le nom d'Henchard, dont les lettres transparaissaient pourtant, confusément encore, comme des bateaux dans le brouillard. Par-dessus s'étalait, en blanc éclatant, le nom de Farfrae. Avisant la maigre silhouette d'Abel Whittle, qui se dirigeait vers la poterne, elle lui demanda « C'est Monsieur Farfrae qui est le maître ici ?»« Oui, Miss Henchard, » répondit-il. « Monsieur Farfrae a acheté la maison avec tous les travailleurs que nous sommes, et on est plus heureux qu'avant. » Je ne devrais pourtant pas vous le dire, à vous qui êtes la belle-fille de M. Henchard. Mais si on travaille plus dur, on n'a plus tout le temps peur. C'est la peur qui m'a si bien éclairci les cheveux. Plus de cris, plus de portes claquées, ni de jurons sur votre âme éternelle. Je gagne un shilling de moins par semaine, mais je suis plus riche tout de même, car le monde entier ne servirait à rien quand on a toujours l'esprit à l'envers. N'est-ce pas, Miss Henchard ? Whittle avait bien décrit la marche nouvelle des choses. Restés à demi paralysés pendant la liquidation de la faillite, les affaires d'Enchard avaient connu une prospérité nouvelle avec l'arrivée de Farfrae. Les sacs rebondis, bouclés par la chaîne luisante, montaient et descendaient sous la poulie. Des bras velus sortaient par des baies pour tirer le grain. Des bottes de foin s'entassaient dans les granges ou étaient lancées au dehors. Les crochets à bottelés crissaient. Balances et maîtres entraient en jeu. Là où on n'avait encore procédé que par estimation.